Parents Live, la vie de famille en direct.
Vous avez envie de partager votre expérience de parents, grands-parents, beaux-parents, enfants ou ados sur un sujet qui vous tient à cœur? Racontez-vous.
Sur Parents Live, on parle de la vie de famille, la vraie, celle qui tâche, qui fait du bruit, qui empêche de dormir ou qui claque les portes.
Rejoignez le direct Parents Live tous les deuxièmes mercredis du mois sur News FM.
Retrouvez les podcasts et l'ensemble des vidéos créées dans le cadre du projet Parents Live sur parentslive.fr. Yes, bienvenue à toutes et à tous pour ce Parents Live numéro 15, comme tous les deuxièmes mercredis du mois, en compagnie de Florence. Ça va, Flo ?
Salut Greg !
Tu vas bien ?
Ça va super.
Ouais, ça va super, très bien, ok. Parents Live, l'émission consacrée à la parentalité sous toutes ses formes, vous le savez, 15e émission, on a abordé plein de sujets. Et puis, pour l'avant-dernière émission de la saison, avant la pause estivale, nous abordons un sujet ultra sensible aujourd'hui, qu'on cherche plus souvent à éviter qu'à inviter. Nous allons parler de la mort et du deuil d'un conjoint ou d'un parent quand celle-ci survient prématurément. Ce sujet nous a été proposé par Claudine, que nous avions reçue pour l'émission de janvier 1 plus 1 égale 4 en famille de jumeaux. Il nous touche tout particulièrement, car nous avons perdu, Florence et moi, nos parents quand on était jeunes. Et chez Parents Live, on assume la porosité entre nos vies pro et perso. Les émotions seront donc au rendez-vous pendant ce direct, Flo.
Et oui, et puis le contexte actuel de crise sanitaire a remis vraiment en avant la question de la mort et du deuil. On a refait en fait un phénomène commun, collectif, ce qui n'avait pas été le cas depuis les grandes guerres du XXe siècle. C'est inédit, intéressant, et puis ça rend visible ce qu'on vit la plupart du temps dans l'intimité de la cellule familiale. La mort, le deuil, ça nous concerne tous, et c'est encore loin de politiques publiques d'envergure, même si le phénomène est de mieux en mieux documenté, on aura des chercheurs en plateau pour nous en parler. La douleur, les larmes, les émotions dérangent. Le deuil est souvent réduit à une gestion du corps d'abord, puis de toute la partie administrative. Il faut retourner au boulot rapidement, faire face. Et puis avec la sécularisation de l'État, la transcendance est mise à distance. Les fantômes, les esprits, les grands ancêtres n'auraient plus rien à nous raconter. Ce qui est bien loin de la façon dont beaucoup de personnes vivent leur deuil, où les signes font légion pour nous rappeler le disparu. Bref, la mort, on en parle sous toutes ses formes sur Parents Live.
Yes. Alors, concernant le veuvage et l'orphelinage précoce, quelques chiffres, Florence, quand même, pour situer le sujet. Le deuil en France touche de près ou de loin 3 à 4 millions de personnes par an. Selon les chiffres de l'OCIRP, l'OCIRP, c'est l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance. Eh bien, selon leurs chiffres, on compte 500 000 personnes en situation de veuvage précoce, c'est-à-dire âgées de moins de 55 ans, dont la majorité a encore des enfants à charge au moment du décès. Côté enfants, on dénombre 250 000 mineurs orphelins, soit 1,8% des enfants, ce qui représente environ un par classe.
Et puis, on reçoit pour en parler des invités aux profils et aux expériences différentes pour pouvoir croiser les regards de ceux qui vivent le deuil, ceux qui l'accompagnent et ceux qui l'étudient.
Bonjour Claudine.
Bonjour.
Alors Dominique, votre mari est décédé en 2015 à la suite d'un cancer qui a duré 10 mois.
Oui.
Vos enfants, deux jumeaux, avaient alors 17 ans.
C'est ça, oui.
Camille, tu as 30 ans, tu es ma petite sœur, tu as perdu ta maman à 19 ans alors que tu commençais tes études supérieures et tu es la troisième d'une fratrie de 4 ans. Salut. Et tu es depuis Londres.
Salut Camille. Carole et Cathy, assistantes sociales au pôle travail social de la CAF, que l'on présentera plus précisément dans la deuxième partie de l'émission.
Bonjour Cathy.
Bonjour.
Bonjour Carole.
Bonjour.
Bonjour.
Jérôme, vous êtes enseignant.
Bonjour tout le monde.
Jérôme, vous êtes enseignant-chercheur en psychologie cognitive à l'UGA et directeur adjoint de l'INSPE en charge de la recherche. Vous êtes membre du laboratoire de psychologie et neurocognition et vos recherches portent sur l'efficience cognitive chez les enfants, en particulier dans les apprentissages. Et concernant les enfants orphelins, vous avez une approche plus large puisque vous vous intéressez à la fois à leur efficience cognitive, aux conditions de leur développement après le décès parental et aussi à la place des enseignants dans l'accompagnement. Et certains de vos articles sont disponibles sur ResearchGate et on mettra les liens en descriptif de l'épisode sur parentslive.fr.
Bonjour Jérôme.
Salut.
Bonjour à vous.
Et puis Martin, tu es socio-anthropologue indépendant. Alors nombre de tes travaux portent sur l'analyse du traitement social de la mort et des morts. Tu es actuellement rattaché en tant que chercheur au CNRS pour un programme de recherche sur la pandémie, les rites funéraires et le deuil. Tu animes le site Mort Anthropologie et tu as également créé l'association Anthropo-Ado qui promeut les savoirs sociologiques et anthropologiques auprès des professionnels de la jeunesse. Bonjour.
Ah, on ne t'a pas entendu, Martin.
Le micro est coupé de Martin, je crois. C'est pour ça.
Évidemment, excusez-moi. Bonjour à vous. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Bonjour. Alors,
voilà. Sur le déroulé de cette émission, on va s'intéresser sur les premiers temps du deuil, les premiers mois, la première année. Ensuite, qu'est-ce qui permet de sortir la tête de l'eau? Et enfin, comment le deuil s'intègre dans la vie après quelques années. On va commencer à chaque fois par les témoignages de Claudine et de Camille. Alors, la parole est à toi, Claudine. Comment ça s'est passé sur les premiers mois, la première année?
Alors, les premiers mois ont été très difficiles. Moi, j'étais dévastée, j'étais à vif. J'étais en colère, j'avais perdu mon compagnon de vie avec qui j'avais passé près de la moitié de mon existence. On s'était rencontrés au travail, on avait travaillé 20 ans ensemble, on avait eu 2 enfants ensemble, on se voyait beaucoup. Donc du jour au lendemain, il n'était plus là. Moi, j'étais très fatiguée par des mois de lutte contre la maladie. Et en plus, mon employeur avait eu la superbe idée de me licencier pendant sa maladie. Donc je cumulais à la fois le deuil, plein de doutes, le stress de ne plus avoir d'emploi, de devoir en retrouver. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'étais à la barre du paquebot familial. Il y avait 2 enfants de 17 ans qui étaient là. Il ne fallait pas que ce paquebot coule. Il fallait avancer. Les enfants rentraient dans l'année du bac. Ils devaient faire un choix d'études supérieures. Donc, je savais que l'année allait être ultra dense. Donc, je me suis lancée à fond dans les démarches administratives liées au décès. Et puis, j'ai dégagé au maximum mes enfants de leur dossier d'orientation. Je me suis occupée de tous les papiers. Et puis, en parallèle, je réfléchissais à un avenir professionnel. J'avais plus de boulot. C'était aussi une façon de détourner de ma douleur qui revenait aussitôt que l'activité baissait. Hein, parce que ça occupe un moment et puis quand tout ça s'arrête, et ben, voilà, ça revient. Et du coup, ça a fait beaucoup trop. Au bout d'un an, j'ai fait un burn-out et ma psychiatre m'a proposé de m'hospitaliser pour me reposer. Et pendant cette hospitalisation qui a duré 2 mois et demi, j'ai perdu 16 kilos, je me suis remis au sport et je me suis dit, ben, faut y aller, quoi.
Merci Claudine. De ton côté, Camille, comment ça s'est passé?
Alors, de mon côté, ça a été aussi vraiment... Je me suis sentie submergée. Ça a été une douleur encore, comme l'a dit Claudine, vive aujourd'hui. Et je pense que ce qui a été très vif à nouveau dans cette période-là, ça a été un sentiment d'avoir envie de la rejoindre, donc d'avoir envie de mourir à mon tour et une perte... complète de vitalité. J'ai vraiment eu l'impression à un moment que j'allais pas pouvoir survivre sans elle, que j'allais pas pouvoir survivre cette douleur. Ça a été une période où j'ai énormément pleuré. J'ai vraiment eu ces complaintes peut-être de petite fille qui pleurait sa maman et voilà de l'appeler en fait pour avoir l'impression qu'elle revienne à moi. Donc ça a été vraiment voilà une période difficile et couplée à ça, j'ai essayé de contrôler mon émotion et le deuil par la nourriture. Donc c'est vrai que j'ai enchaîné des moments de privation totale et donc des moments où je maigrissais énormément, des moments où je reprenais beaucoup de poids, etc. Donc j'ai géré les premiers mois aussi avec ce genre de yo-yo entre anorexie et boulimie. Et ce qui finalement, quelque part, m'a un peu aidée. Alors, j'ai fait énormément de cauchemars dans cette période-là, des cauchemars où je me réveillais en hurlant sans vraiment savoir ce qui se passait dans ma tête. Mais quand même, à un moment, peut-être dans les quelques semaines qui ont suivi son décès, j'ai fait plusieurs rêves consécutifs où j'ai eu l'impression que maman est venue me dire au revoir, je me souviens très bien une fois, elle me dit qu'elle serait toujours là, mais différemment. Et ces trois phases de rêve, finalement, m'ont accompagnée pendant ces premiers mois et m'ont permis peut-être de relever un tout petit peu la tête.
Merci Camille.
Merci Camille. Merci. On va faire un petit focus sur la recherche action. Martin, vous avez mené une recherche, une action pilotée par l'IFTS entre janvier 2017 et mai 2018, menée auprès d'une trentaine d'orphelins, une quinzaine de proches et professionnels, et bien sur les répercussions de l'orphelinage à l'âge adulte. Le constat de départ était le peu de prise en compte au niveau institutionnel des orphelins, au niveau du travail social et de l'école. Vous releviez également une tendance à la psychologisation. Tout n'est pas forcément pathologique dans la mort et le deuil. Et ce ne sont pas seulement aux psychologues de gérer. Pour vous, il est important de penser la mort et le deuil de façon collective Chacun de sa place joue un rôle. On mettra la synthèse en descriptif du podcast, Flo.
C'est ça.
Alors, lors de l'étude, Martin, qu'est-ce qui est ressorti et qui complète ces témoignages?
Alors, du coup, ça complète effectivement très bien les deux précédents témoignages, puisque du coup, fondamentalement, en fait, toute mort, lorsqu'elle survient, en fait, perturbe fondamentalement, en fait, les vivants qui sont finalement des survivants et qui se considèrent et qui expérimentent aussi ce vécu-là de vraiment devoir survivre. En fait, ce que dit très bien Camille sur le fait que voilà, j'avais envie éventuellement même de la rejoindre. En fait, donc ces tendances-là, on les a chez toutes les personnes endeuillées qui sont frappées par la mort d'un proche, et que ça se retrouve particulièrement chez les orphelins. Très clairement, en fait, quand je précise la question de la psychologisation, c'est que, avant tout, pour moi, en tant que socio-anthropologue, on essaye de faire avec quelque chose qui nous terrasse et qui nous dépasse, et que c'est déjà énorme. Et qu'en fait, il y a vraiment une dimension de l'ordre de « Ok, comment est-ce que je parviens à survivre à un événement qui me provoque énormément d'émotions, qui me tétanise, qui me scandalise, il y a plein d'émotions qui nous traversent, mais que déjà, comment est-ce que je maintiens un tant soit peu la tête hors de l'eau, et que ça peut durer très longtemps. Et que ce qui est assez intéressant aussi, et très violent et difficile, c'est que ça peut revenir à tous les âges, en fait. Et que cet équilibre-là, en fait, il est vraiment très ténu, et qu'en fait, dans toute la vie des orphelins, finalement, en fait, ces choses-là vont se rejouer, et ces sentiments vont se rejouer à d'autres périodes, et qu'on fait déjà ce qu'on peut, et que ça, c'est déjà beaucoup, en fait, et que on peut aller voir des psychologues, évidemment, nos proches peuvent nous aider, etc., et nous permettre juste déjà de maintenir un peu la tête hors de l'eau, et c'est déjà énorme face au traumatisme, ou en tout cas au choc que l'on essaye d'encaisser, en fait, finalement, et que l'on parvient bon an mal an, finalement, à encaisser et à faire et à intégrer.
Très bien, merci.
Moi, ce que j'avais retenu aussi dans votre étude, c'est qu'à la fois, on a envie de se sentir normal, et on n'a pas forcément toujours envie d'être ramené à sa situation d'orphelin, mais on a aussi besoin de se sentir reconnu dans son deuil, mais pas forcément envie d'y être réduit. On peut avoir des sensibilités, des ressentis de culpabilité, d'abandon, d'illégitimité, un sentiment d'injustice aussi, forcément. Il y a beaucoup d'ambivalence, beaucoup de paradoxes, et des choses qui peuvent être des freins à des moments deviennent des leviers.
Tout à fait. Qu'effectivement, il y a cette ambivalence-là où on a envie de crier à l'injustice, en fait, parce qu'effectivement, ce n'est pas normal de perdre un parent. Quel que soit l'âge, finalement, en fait, mais en tout cas pour les orphelins, il y a cette dimension de l'âge de on est encore en train de grandir, on a des choses à faire avec ses parents, et que, du coup, il y a une forme d'injustice et un besoin et une nécessité aussi d'être considéré par les autres comme quelqu'un finalement de normal, comme tout le monde. Quand vous êtes à l'école, vous n'avez pas envie qu'on vous renvoie constamment à cette identité d'orphelin ou de personne endeuillée. Et qu'on va être ambivalent sur, parfois on aimerait avoir la petite attention vraiment microscopique d'un professeur, d'un ami, d'un parent d'élève, etc., qui reconnaît cette injustice-là ou ce sentiment-là et cette dimension-là de notre vécu. Et en même temps, à plein d'autres moments où on n'a surtout pas envie qu'on nous en parle ou qu'on nous renvoie cette identité-là, pour aussi continuer à maintenir, en fait, finalement, la tête hors de l'eau et à continuer, puisque les enfants sont, malgré la perte d'un enfant, sont là pour grandir, en fait, et que, d'un parent, merci, sont là aussi pour grandir, et que malgré tout, malgré cette perte-là qui les terrasse, en fait, un enfant, un de ses grands objectifs, c'est quand même de grandir, en fait. Et que là, certes, il y a un parent qui n'est plus présent, mais qu'ils ont besoin des autres pour le renvoyer à sa normalité et à certains moments aussi à sa particularité qui fait que, effectivement, pas tous les enfants expérimentent le décès d'un parent.
Très bien, merci Martin. On va poursuivre sur le temps des obsèques. De votre côté, Claudine, comment ça s'est organisé? Comment vous l'avez vécu?
Alors ça n'a pas été évident parce qu'en fait, on n'avait pas discuté de la mort avec mon mari. Moi, j'étais dans une forme de déni. C'était impossible pour moi qu'il meure. Je n'avais pas du tout envisagé ça dans ma vie. Donc, j'avais aucune consigne le concernant. Il n'était pas de la région. Donc, j'ai questionné sa famille pour savoir s'il leur avait dit quelque chose. Et donc, il n'y avait rien qui avait été dit. Donc, j'ai choisi de l'enterrer dans mon village natal, proche de Grenoble. Un endroit où je pourrais aller me recueillir régulièrement, un endroit où on pourrait visiter avec mes enfants et pas à l'autre bout de la France parce que pour moi, ça n'avait pas de sens. Et du coup, j'en ai profité aussi pour donner des consignes à mes enfants et leur dire, voilà, moi, quand je mourrai, vous me ferez incinérer et ensuite, vous m'enterrez à côté de papa. Voilà. Ça, au moins, les choses sont dites. Et puis pendant la cérémonie, moi, j'ai eu besoin qu'il y ait beaucoup de monde. Donc, j'ai averti beaucoup de gens. Je voulais que mes enfants... soient entourés et sachent que leur père était quelqu'un d'apprécié. Et j'ai eu besoin de lire aussi un texte d'hommage. Alors j'ai eu la trouille, une grosse trouille, parce que je suis très émotive et parler devant un micro, devant plein de gens, je ne savais pas si j'en serais capable. Quelqu'un m'a proposé de le faire pour moi, et alors là je me suis dit, mais il est hors de question que quelqu'un lise mon texte, c'est moi qui dois le lire. Et finalement ça s'est très bien passé, apparemment le texte était pas mal, et il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Et bah, s'il y en a qui nous écoutent, je les remercie encore d'avoir été là parce que ça a été d'un grand soutien pour moi, pour la famille de mon mari, pour mes enfants. C'était bien. Je pense qu'une cérémonie réussie aide beaucoup à avancer.
Je suis d'accord avec toi. Camille, de ton côté ?
Alors, les obsèques. Alors, la première chose, je pense que c'est peut-être pas commun. Donc, maman était hospitalisée à Grenoble et elle avait vraiment un souhait, c'était de rentrer à la maison. Et on a eu la possibilité de veiller le corps chez nous, dans notre maison. On avait un espace pour pouvoir l'accueillir. Et c'est vrai que ça peut paraître étonnant. Et même aujourd'hui, quand j'y pense, ça me paraît surprenant. Mais c'est vrai qu'elle a été là avec nous et tout le monde a pu venir lui dire au revoir. Et c'est vrai que je me souviens d'un soir... aller veiller le corps avec mon père et lui poser un baiser sur le front. Et c'est vrai que c'était tellement froid et bizarre, mais à la fois, ça permettait vraiment d'avoir ce temps d'adieu. Et aussi, il y avait beaucoup moins de souffrance sur son visage. On la sentait apaisée. Donc, je pense que ça a été vraiment le premier moment des obsèques, donc pour la veiller ensemble à la maison. Et ensuite, il y a eu le moment de la cérémonie qui, finalement, a été... alors, comme Claudine le disait, c'est vrai qu'il y a eu énormément de monde et maman était quelqu'un de très apprécié. Et du coup, c'est vrai que c'était beau de voir tout ce monde-là. Ce qui a été très incohérent dans ma tête et dans ces moments-là, je me souviens suivre le cercueil dans cette allée d'église en tenant le bras de mon père et en étant, mais c'est complètement incohérent, ça fait presque une situation où mon père m'amène à l'autel, mais en fait je suis en train de suivre le cercueil de ma mère et pas du tout dans une ambiance de mariage ou plus heureuse, et donc c'est vrai qu'il y avait cette incohérence-là complètement. Et je pense que le moment, donc après énormément de témoignages, de chants, ça a été vraiment finalement une belle cérémonie. De mon côté, moi, j'ai pas du tout réussi à prendre la parole parce que c'était trop douloureux. Mais je pense que ce qui m'a vraiment, par contre, vraiment brisé le cœur, ça a été vraiment le moment du dernier adieu où on a jeté une rose sur le cercueil. Et là, j'ai vraiment... senti mon cœur se briser et vaciller, cette idée, comme je vous disais, cette envie de mourir et de la suivre, cette idée de peut-être sauter vers elle. Voilà, donc c'était mon expérience des obsèques.
Martin, du coup, ce qui ressort dans votre étude concernant le temps des obsèques pour les enfants, c'est l'importance qu'ils soient partie prenante, écoutée, les intégrer à la préparation, utiliser des mots justes, pas forcément des euphémismes, les faire participer puis solliciter l'aide d'un pro si le parent survivant n'y arrive pas. C'est ce qui ressort de ce que vous avez écrit. Et puis moi, du coup, en préparant l'émission, en ayant eu moi-même ce vécu des cérémonies et du deuil, je me suis dit, en l'absence de rituels religieux, de quelque chose qui encadre la mort de façon, on va dire, sociale, ben, comment on peut faire ? Parce qu'il y a tout le cadre administratif, on meurt la plupart du temps à l'hôpital, puis les pompes funèbres prennent le relais, les veillées mortuaires sont possibles mais sont rares. On ne peut pas enterrer les morts où on veut, ni disperser les cendres où bon nous semble. Et c'est Maya Mazorette qui le dénonce dans son podcast Traverse, où elle décrit son deuil à la mort de son fiancé, et pour elle, tout est trop bureaucratique. Et en fait, il y a quand même des alternatives qui existent et on peut se faire accompagner pour trouver la façon qui nous ressemble pour vivre les obsèques.
Yes, l'Escargot Migrateur, c'est un organisme de formation autour des démarches collectives et participatives qui a lancé depuis un an un projet de réflexion autour des rituels, des cérémonies, des célébrations pour tenter de se réapproprier ces moments profondément humains et politiques. Vous pouvez recevoir des nouvelles de ce travail ou y participer d'ailleurs en les contactant rituel avec un S @escargotmigrateur@org.
Et puis en parallèle des propositions des pompes funèbres, il y a de nouvelles propositions qui apparaissent également autour de la mort, comme ce qu'on appelle les maîtres de cérémonie ou les officiants laïcs, comme par exemple le Sacha Epp, dont le site est cérémoniedevie.fr.
Il y a le projet happyend.life aussi qui milite via un manifeste et diverses propositions pour apprivoiser la mort, libérer la parole sur le sujet. Le site recense de nombreux professionnels et des innovations funéraires pour le temps des obsèques, permettant des rituels sur mesure. Il propose également des apéros de la mort et un magazine qui s'appelle Mortem.
Voilà, l'occasion de parler de la mort de façon, on va dire, pas forcément légère, mais en tout cas en s'en saisissant d'une façon...
D'une façon assez positive,
on
peut mettre le mot positif derrière pour s'en
Allez,
saisir.
On y va.
Oui, on peut.
Et puis on a repéré également 3 podcasts récents qui touchent au sujet, donc Traverse de Maya Mazorette autour de la mort de son fiancé, également Mortel de Taous Merakchi qui se livre après la mort de son père, et puis 3 épisodes du podcast Émotion qui parle de la fin de vie, du deuil à travers des témoignages, des paroles de pros et de chercheurs. Et puis vous, on vous encourage à nous transmettre vos livres, vos films, vos vidéos et podcasts coup de cœur sur cette question. Et puis on les relaiera sur parentlive.fr.
Yes. Alors, on va continuer un peu dans l'entretien avec nos invités, Florence et Claudine. Comment ça se passait, comment ça s'est passé avec vos enfants, avec votre entourage?
Alors avec l'entourage, ça s'est bien passé en fait. L'entourage a été très présent, mais dès l'annonce de la maladie, parce qu'on a très vite su que le cancer était très grave et qu'il y avait peu de chances de s'en sortir. Donc ils ont été là, la famille a été là, ils nous ont soutenus pendant toute cette période-là. Et puis pendant les années qui ont suivi, on a été bien entourés. Les enfants, ils avaient l'année du bac qui arrivait, donc... C'était, je dirais, peut-être le côté positif, c'est qu'ils avaient un objectif dans la vie, dans l'année qui venait. Ils ont été très courageux, ils y sont allés, et ils ont eu leur bac d'ailleurs. J'étais hyper fière d'eux, on a été très proches pendant toute cette période-là, on est toujours très proches, on a vécu quelque chose de très fort ensemble. Mon fils a souhaité être accompagné par un psychologue pour pouvoir se faire aider. Et ma fille, elle, avait envie de faire partie d'un groupe de paroles d'ados en deuil. Et ça, par contre, j'ai jamais réussi à trouver ça à Grenoble et dans l'agglo. Alors, elle a réussi à dialoguer avec, curieusement, dans sa classe de première et de terminale dans le lycée où elle était. Ils étaient plusieurs à avoir perdu un parent. Et du coup, ça leur faisait des possibilités de pouvoir en discuter ensemble. Mais ça n'a pas été évident, la parole est difficile. Et d'ailleurs, dès le départ, ils parlaient très peu de leur père. Souvent, c'était moi qui en parlais. Mais pendant des années, j'ai bien vu que ça avait été très difficile. Et même encore maintenant, c'est difficile. C'est déjà plus, on va dire, délié, mais ce n'est pas spontané. Je pense qu'il nous arrivait, c'était tellement irréel que moi, par exemple, pendant des mois, j'ai eu l'impression que je vivais un mauvais rêve, que vraiment j'allais me réveiller et qu'il allait pousser la porte de la maison. Et il a fallu, je pense autant pour les uns que pour les autres, un temps très long pour pouvoir percuter qu'en fait, c'était terminé. Et ça, c'est vraiment compliqué.
Sur cette question, comment ça se passe avec l'entourage, Camille, si tu veux bien nous donner ton ressenti.
Ouais. Alors, mon ressenti, alors comme je pense que j'ai réussi à l'exprimer, ça a été vraiment un moment très douloureux pour moi et ça s'est vraiment exprimé avec énormément, énormément, énormément de larmes. Et rapidement, en fait, j'ai eu l'impression que ce flot d'émotions et ce trop d'émotions a importuner mon entourage, et sachant que mon entourage proche aussi vivait la même douleur, mais de manière très différente. Et donc moi, dans dans ce moment-là, en fait, j'ai eu le besoin, en fait, de peut-être de retrouver de la solitude et en fait, de vraiment me faire mon cocon à moi et gérer ma douleur et mes pleurs toute seule. Et c'est d'ailleurs étonnant parce que j'ai plusieurs fois pleuré dans des lieux publics. Et parce que justement, peut-être chez moi, j'avais des colocs ou ailleurs, il y avait du monde. Et dans les lieux publics, c'est là où je me sentais, où je pouvais me vider. Et plusieurs fois, il y a notamment des femmes qui sont venues s'asseoir à côté de moi ou qui m'ont vu pleurer et qui m'ont demandé qu'est-ce qui se passait. Et j'ai eu ce genre d'interaction où, voilà, une des personnes m'avait laissé son numéro de téléphone, une autre personne m'a offert un chocolat chaud au marshmallow chez elle. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression finalement que ces petites personnes m'étaient peut-être envoyées par ma mère pour me dire bon ben voilà tu n'es pas toute seule et que même si j'avais ce besoin de solitude finalement j'avais toujours des gens qui étaient là pour veiller sur moi et après à nouveau donc pendant cette période-là j'étais étudiante et donc bon pour le coup moi j'ai passé un BTS après quelques semaines après pour le coup j'ai pas réussi mais j'ai rebondi l'année suivante, et c'est vrai que par contre, j'ai trouvé un soutien aussi au niveau du personnel éducatif et de mes profs qu'on réussit à m'entourer à ce moment-là et à offrir quand même une forme d'écoute et de flexibilité dans ma douleur. Et je pense que ça, j'avais vraiment apprécié cette flexibilité-là de leur part.
Merci.
Pour compléter, Camille, tu es partie aussi, tu as eu besoin de quitter la France en fait et de voyager? Dans l'éloignement.
Oui. Ouais, je pense que vraiment, donc dans ce besoin de cette solitude et cette impression que j'importunais mon entourage, c'est vrai que j'ai 6 mois après le décès de maman, je suis partie pendant 3 mois à New York. Et c'est vrai que dans les années qui ont suivi, j'ai énormément voyagé. Et donc aujourd'hui, je vis à Londres, mais pendant les presque 5 dernières années, j'ai vécu en Asie. Donc j'ai eu besoin de cet éloignement et de me reconstruire en tant qu'individu, peut-être un peu voilà, hors de ma structure familiale et de ce que je connaissais.
Merci. Alors maintenant, on va passer plutôt à la question administrative. Claudine, en échangeant, moi j'avais été étonnée à quel point tu avais anticipé certaines choses au niveau administratif pour protéger tes enfants oui. et protéger Dominique ou toi en cas de décès de l'un ou de l'autre ou des deux.
Oui, c'est vrai qu'on avait fait des démarches parce qu'on avait eu le cas autour de nous, de familles dont les parents étaient décédés. Et moi, ça m'avait choquée à l'époque parce que c'était des situations qui étaient vraiment très, très compliquées, à la fois pour la famille qui devait s'occuper de ses enfants orphelins et puis pour le conjoint survivant quand il y en avait. Il était empêtré dans des démarches administratives avec des histoires de juges, avec des histoires... Et je me suis dit, pas de ça. Et nous, on avait cette conscience qu'il pouvait se passer quelque chose parce que mon mari avait 13 ans de plus que moi. Et donc, il me disait de temps en temps, de toute façon, je partirai avant toi. Donc, il faut qu'on se protège, il faut protéger nos enfants. Donc, quand on s'est mariés, on a fait un contrat de mariage. Basé sur la communauté universelle. On se connaissait déjà depuis longtemps quand on s'est mariés, on ne s'est pas mariés tout jeune. Et ce contrat de mariage disait que la personne, le conjoint survivant en cas de décès, aurait mainmise sur les biens de la famille et qu'il n'y aurait pas une personne extérieure qui viendrait y mettre son nez, ni un juge, ni quelque chose d'administratif. On se disait que... Pour la personne qui reste, ça serait déjà suffisamment compliqué émotionnellement de se débrouiller au milieu de tout ça. Il ne fallait pas qu'en plus s'ajoutent des problèmes administratifs et des problèmes juridiques. Donc, on avait un très bon notaire qui nous a conseillé de faire ce type de contrat. Et puis, toujours parce qu'il y avait eu des expériences dans mon entourage, justement, de parents qui étaient décédés. Sur les conseils du notaire, on a fait un papier disant que s'il nous arrivait quelque chose, soit décès, soit incapacité de prendre des décisions, on souhaitait que ma mère récupère les enfants et qu'elle s'occupe d'eux tant qu'elle en était capable et que si à un moment donné elle en était plus capable, qu'il y ait un conseil de famille qui se réunisse avec l'accord des enfants et qui décide ensemble, avec beaucoup de bienveillance, de ce que feraient les enfants, où iraient les enfants. Parce que la famille de mon mari n'étant pas de Grenoble, c'était très compliqué, en fait. Alors, ça a été très dur de faire ces démarches, parce que ça fait poser beaucoup de questions au sein du couple. Il faut l'accord aussi il a fallu l'accord de ma mère, donc il a fallu en parler à ma mère. Et c'était pas simple, mais en tout cas, quand on a fait ces démarches-là, après, pour moi, j'étais beaucoup plus sereine. Je savais que les choses étaient faites et que les enfants seraient avec une personne bienveillante et qui s'occuperait bien d'eux. Voilà.
Et pour préciser, c'est des démarches que vous avez faites bien avant que Dominique tombe malade,
en fait.
Bien
sûr, une bonne dizaine d'années avant. Je pense qu'on avait cette conscience-là. Moi, il y a eu beaucoup de décès dans ma famille. Et avant que Dominique ne décède, dans les 7 ans qui ont précédé, il a perdu sa mère, 2 frères, 1 neveu. Donc on avait vraiment cette conscience que la vie peut basculer du jour au lendemain et qu'il faut protéger ceux qu'on aime.
En tant que parent.
En tant que parent, en tant que conjoint.
Tout à fait.
Eh bien, Flo, on va marquer une petite pause dans cette émission. Si vous nous rejoignez à l'instant, on est dans Parents Live numéro 15 consacré au deuil. Donc on revient, on fait une petite pause musicale et on revient avec tous nos invités juste après un peu de musique. Restez avec nous.
I'll play your favorite song, darling. We can rock it all night long, darling. Cause I've got to love, darling. Love, sweet love. Mais l'amour just got to me. So let the music rock me. Cause I've got to love, darling. Love, sweet love, darling. Quiet as the night. Your light. I'll play your favorite song, darling. We can rock it all night long, darling. Strike the hammer while iron is hot.
On est ensemble, mais du coup, on attend la fin de la chanson et on reprend le direct.
Dans une minute.
Et c'est allumé là.
Bon. Il y a un bouquin que vous pourriez conseiller qui est vraiment super.
Dis-moi.
Que je vous ai peut-être pas parlé, c'est celui de Vinciane Després, Au bonheur des morts.
Oui, bah écoute, j'en ai entendu dans le podcast justement Émotion il y a pas longtemps. C'est justement oui sur les rituels. Hein.
Et du coup, en fait, c'est pas que sur les rituels, c'est sur le rapport avec les morts, oui, et la possibilité d'entretenir un rapport particulier avec les morts, etc. Et que c'est très bien écrit, c'est très accessible. Enfin, c'est vraiment, ça se lit très bien. Et c'est une grande philosophe et une grande penseuse francophone.
Ariane Després, c'est ça ?
Vinciane.
Pardon ?
Vinciane.
Vinciane.
Vinciane Després, Au bonheur des
morts. Vinciane Després.
Vinciane. Ouais,
ah, Vinciane.
Vinciane, elle est belge. Ça va reprendre.
Yes. On est de retour dans cette émission Parents Live numéro 15 consacrée Florence au deuil, hein, aujourd'hui. Donc émotion, hein, aussi pour nous autour de la table. On a plein d'invités et cette fois-ci dans cette deuxième partie d'émission on va s'intéresser à l'ancrage et au fait d'apprivoiser l'absence. Qu'est-ce qui vous a permis de sortir la tête de l'eau, Claudine ?
Alors, il n'y a pas une chose en particulier qui m'a permis de sortir la tête de l'eau. C'est venu par étapes, en fait. Dès ma sortie de l'hôpital psychiatrique, après le burn-out, je me suis inscrite dans une salle de sport. Et comme la cotisation était chère, j'y allais entre 2 et 4 fois par semaine. Et ça a été vital parce que ça m'a permis d'avoir un rythme dans ma semaine, vu que j'avais pas de travail et pas encore en capacité de travailler. Et puis de me reconstruire une charpente physique parce que je sentais bien qu'au niveau du corps, il y a pas que l'esprit qui avait vrillé, le corps aussi, il était pas bien. Et de pas reprendre des kilos que j'avais perdus à l'hôpital. Et je tenais vraiment à avoir une posture, une bonne posture en fait. Il y a eu aussi ma psychiatre qui a été très soutenante et qui m'a arrêtée pendant 2 ans et demi. Alors, ça peut paraître long, mais en fait, c'est vraiment un temps qui est nécessaire ça a été nécessaire pour me reconstruire et ça a été nécessaire pour commencer à envisager de rechercher du travail. Et ça, c'est quand même un gros morceau, parce que c'est pas simple. Il y a toujours mes amis, ma famille, la famille de mon mari qui ont été là, toujours très présents. Et ce qui était bien, c'est que quand j'avais envie de les voir, souvent, c'était pas longtemps. C'était pas rester des heures avec eux, c'était juste une demi-heure ou une heure. Et ils ont fini par comprendre que oui, je pouvais faire une apparition et puis ensuite retourner à ma solitude. Et ça, c'est important de le dire parce que c'est bien de voir du monde, mais des fois pas trop longtemps. Il y a un moment où on peut plus entendre ce qui se passe à l'extérieur. Il faut vraiment revenir dans son cocon et prendre soin de soi. Il y a eu des livres aussi qui m'ont beaucoup aidée, notamment le livre de Christophe André qui s'appelle « Vivre le deuil au jour le jour ». Je l'ai lu, relu, annoté, j'y ai épanché toute ma douleur. Et puis, il y a 2 films que je peux recommander, qui est un film de Didier Dematon qui s'appelle « Seul du jour au lendemain » et qui parle du veuvage jeune. Et puis, il y a le magnifique film de Julie Bertuccelli qui s'appelle « L'arbre » avec Charlotte Gainsbourg, qui est vraiment un très, très beau film. Et tout ça, ça m'a permis de comprendre que mes émotions et mes réactions étaient normales et que ça irait mieux un jour. Et ça, c'est important aussi d'avoir ce côté où ça n'a pas duré tout le temps comme ça. J'ai aussi écrit un journal de deuil, parce que quand je vais mal, j'écris. Donc, j'écris. Et puis, les visites régulières au cimetière, entretenir la tombe, mettre des jolies fleurs, parler, discuter avec mon mari... J'avais l'impression qu'il me répondait. On y allait régulièrement avec les enfants. Et puis, il y a eu toute la partie qui a été très importante de contact avec les professionnels et associations. Et ça, je l'ai fait très tôt. J'ai accepté l'aide que l'on me proposait au fur et à mesure que cette aide est arrivée. Donc, ça a commencé par la CAF. J'ai participé à un projet qui s'appelle CAP Projet. Ça a duré 2 mois où là, on était en groupe de femmes en situation de monoparentalité. Et ça, c'est bien d'être ensemble et puis de cheminer ensemble. J'ai contacté aussi l'association Jal Malve à Grenoble, qui a une entité qui s'appelle Écoute Deuil. Donc, j'ai fait partie d'un groupe de parole sur le deuil. Et puis, j'ai fait un travail sur le burn-out avec la CARSAT. Et tout ça, moi j'ai bien aimé ce partage avec toutes ces personnes parce que ça permet de partager un même vécu avec des gens qui ont la même sensibilité dans un groupe où la parole elle reste et elle sort pas. Voilà, ça c'est hyper important.
Merci Claudine. Camille, qu'est-ce qui toi t'a permis un peu de sortir la tête de l'eau?
Alors, c'est étonnant parce que j'ai lu le même livre, au jour le jour, dans les premiers mois du début de mon deuil. Et je pense que ça m'a aidé à mettre des mots. Et justement, je pense que Claudine le définit très bien, cette idée de la temporalité, que finalement, le temps quand même fait son œuvre. Et ce que disait aussi Martin, qui était très juste tout à l'heure, que finalement, le temps du deuil peut se faire à différents moments et le temps du deuil, des fois, revient au milieu de la vie. C'est vrai que moi, des fois, je rouspète contre moi-même de pleurer à nouveau sur ma maman et de redevenir cette petite fille et que finalement, c'est accepter que ça fait partie de mon identité et qu'il n'y a pas un début et une fin du deuil, mais que ça fait partie de nous. Et comme aussi Martin le disait très justement, et je pense Flo, toi aussi, ça fait partie de notre identité et qu'il y a des fois on a envie d'être défini par notre deuil et par la personne qu'on a perdue et il y a d'autres fois où on a justement envie d'être admis et de ne pas être défini par notre deuil ou notre histoire passée. Et comme je l'ai rapidement souligné juste dans mon témoignage d'avant, ce qui m'a vraiment aidé à sortir de la tête de l'eau, voilà, c'est vraiment partir. Donc j'ai fait donc un premier séjour à New York de plusieurs mois, ensuite je suis partie en Inde plusieurs mois et j'ai vraiment eu besoin d'être à nu, de mettre à nu mes émotions, d'être dans un endroit complètement nouveau et de pouvoir me déconstruire et peut-être quelque part me reconstruire. Et je pense que si, et que c'est quelque chose qui est toujours présent aujourd'hui, passer. J'ai un besoin de vivre intensément. J'ai vraiment cette besoin de... J'ai pas envie de vivre une petite vie. J'ai envie de presque vivre pour deux. Et parce qu'en fait, pour moi, ce moyen de vivre intensément, c'est de... J'ai dû me construire une belle vie et une vie intense pour pouvoir survivre. Et ça a été justement mon moyen de survivre, de me dire j'ai besoin de vivre intensément, j'ai besoin de vivre pour deux. Et finalement, ça vaut le coup de rester en vie.
Merci Camille.
Alors dans l'accompagnement, il y a des professionnels qui peuvent assez rapidement jouer un rôle prépondérant dans l'accompagnement du deuil. C'est notamment le cas des assistantes sociales du pôle travail de la CAF qui interviennent auprès des familles locataires suite à des situations difficiles comme le deuil ou également la séparation ou les familles monoparentales. Carole, Katiane, vous êtes donc assistante sociale au pôle travail de la CAF de l'Isère. Quelles sont vos missions, vos modes d'intervention et vos propositions de soutien auprès des familles?
Alors, oui, nous sommes travailleurs sociaux, alors assistantes sociales ou conseillères SF, nous faisons les mêmes missions au sein de la CAF. Et donc, nous sommes une équipe répartie sur tout le territoire de l'Isère avec plusieurs missions, donc comme vous avez cité. En fait, nous intervenons lorsqu'il y a un événement fragilisant et qui peut être déstabilisant pour les familles, voire douloureux, en effet, le deuil. Donc, nous intervenons aussi au niveau des naissances dans des familles monoparentales, lorsqu'il y a des grossesses multiples, sur des situations de séparation et de deuil lorsqu'il s'agit d'un enfant ou d'un conjoint et donc des familles allocataires donc qui ont des enfants à charge. Voilà, donc on essaye d'intervenir nous assez rapidement, trois semaines, un mois après l'événement. Dans une logique de soutien et puis de prévention aussi des difficultés qui peuvent aussi s'ajouter, entourer déjà cet événement compliqué à vivre. Peut-être plus concrètement, lorsque la CAF est informée du décès, on se met en lien avec les familles. Donc on va vers les familles. On a pris cette option en fait de systématiquement proposer un rendez-vous à domicile ou bien dans nos locaux, sur des lieux de permanence assez proches, quelque chose d'accessible pour les familles. Donc, elles sont après libres de répondre ou pas à cette proposition de rendez-vous et de pouvoir, s'il le faut la journée, parce qu'on n'est pas non plus sur le bon temps pour elles. Voilà. Donc, on propose un rendez-vous, puis après un accompagnement aussi possible. Donc, pour notre premier rendez-vous, on propose un temps d'écoute psychosociale d'une heure, une heure et demie, où on aborde vraiment de nombreux sujets avec l'idée de faire la personne le tour de la situation dans sa globalité. Et Katiane, je te laisse peut-être présenter
particulièrement. Donc du coup, voilà, plus particulièrement, je vais vous présenter un petit peu comment ça se passe, un peu le déroulé de nos entretiens psychosociaux. Donc dans un premier temps et avec bienveillance, nous accueillons la parole de la personne endeuillée. Si elle le souhaite, elle peut se livrer sur son vécu, sur les circonstances du décès, de parler bien sûr de la personne décédée et comment les choses se sont déroulées. Souvent, c'est quand même un premier temps. Donc, c'est vrai que nous ne sommes pas des psychologues, nous sommes des travailleurs sociaux, et on intervient en tant que personne neutre, de tiers neutre, autre qu'un membre de la famille ou d'amis. La confiance se met en place assez rapidement et la parole se libère peut-être plus aisément à certains moments, car il n'y a pas d'affectif qui se joue. Notre rôle est bien de vérifier que la famille ne soit pas isolée, enfin que la personne endeuillée ne soit pas isolée, qu'elle puisse compter sur sa famille ou sur des amis ou sur un voisinage proche. Ça, c'est assez important. Si besoin, donc nous pouvons accompagner ces familles ou les informer vers des personnes relais. Donc effectivement, comme disait Claudine ou Camille, il existe des associations qui peuvent être là aussi en soutien. On en parlera un tout petit peu après. Donc, notre rôle prioritaire, c'est d'écouter, de partir de l'expression et des besoins des familles en fonction de chaque situation. Donc notre temps d'intervention et d'accompagnement est variable d'une famille à l'autre, d'une situation à l'autre. Donc dans un second temps, on pourrait dire qu'on fait un peu le point sur les démarches administratives. On en a parlé tout à l'heure. Donc on fait un petit peu, on liste un peu avec les familles les démarches qui sont déjà effectuées ou celles qui resteraient encore à faire. Souvent, ça rassure les familles justement de lister avec elles un peu ce qu'elles ont pu déjà mettre en place. Donc, nous tenons à soutenir ces familles effectivement sur ces questions d'ordre administratif afin qu'elles soient effectuées rapidement et de leur permettre surtout de se sentir un peu plus sereines et d'être un peu libérées de ce fardeau. Même si effectivement c'est important que voilà qu'il y ait cette démarche malgré tout qui soit faite. Lors de ces entretiens, donc nous abordons l'accès aux droits, l'institution CAF où nous travaillons, mais d'autres institutions. Donc ça peut être une demande d'ASF, l'allocation veuvage, le RSA, la rente éducation par un employeur. Donc l'idée est de ne pas faire avec, de ne pas faire à la place, excusez-moi, des personnes que nous rencontrons, mais de faire avec. C'est réinstaurer aussi et les réassurer sur leur capacité à agir. Donc, nous évoquons également le domaine financier, hein, qui est malheureusement, qui fait partie d'une vraie et dure réalité qui s'impose aux personnes. Donc, nous pouvons mettre en place, pour certaines situations, des soutiens financiers internes et ponctuels pour les aider à régler des frais d'obsèques, par exemple. Hein, ça se fait assez régulièrement. Des soutiens psychologiques, des gardes d'enfants, l'intervention d'une TISF, une aide pour un relogement. Donc, on échange également sur la construction d'une nouvelle organisation familiale et la prise en compte de chacun dans la famille en fonction de des réalités d'âge, de professionnels, etc. Par exemple, une maman qui ne travaillait pas, eh bien, effectivement, on va voir un petit peu avec elle quelles peuvent être ses démarches au niveau d'insertion professionnelle ou pour la garde de son enfant. Nous travaillons parfois en binôme, hein, on n'est pas forcément toujours toute seule face à une situation. On fait quelques co-accompagnements, par exemple avec des travailleurs sociaux d'entreprise, souvent, ou des personnes du département. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire par rapport à tout ça. Voilà. Nous pouvons aussi, je te laisse après relayer pour les associations. D'accord. Voilà.
Ouais. Et c'est vrai que aussi, on peut aussi intervenir avec les familles, les accompagner selon les besoins. Alors, ça va vraiment dépendre aussi de chacun sur d'autres formes de soutien qui existent. Donc, on en a un petit peu parlé là dans les témoignages, que ce soit sur du soutien psychologique, mais aussi médical. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont chamboulées, et le soutien aussi par des associations qui peuvent proposer en effet des temps d'écoute, d'accompagnement individuel et surtout des groupes de parole. Voilà, donc du coup, Claudine, vous avez parlé de écoute deuil, voilà, sur lesquels voilà, on oriente beaucoup aussi l'association Jalmav. Après, il existe d'autres associations sur le département. Qui sont plus spécialisés sur le deuil adulte ou deuil enfant, voilà, donc il existe pas mal de choses. Peut-être juste pour citer en plus de l'écoute deuil, donc l'association qui s'appelle Apprivoiser l'absence, qui est plus tournée vers les sœurs et frères en deuil. Voilà, et sur pour les personnes qui écouteraient, qui seraient sur d'autres communes du département, aussi sur Vienne, il existe une association À la vie, Accompagner les vivants. Et sur Bourgoin-Jallieu, l'association d'accompagnement des personnes endeuillées. Voilà, pour le deuil adulte après. Et ce qui peut être aussi intéressant, peut-être sur le site de Écoute Deuil, il y a très facilement, on peut trouver un listing des associations assez complets, en fait, qui existent sur l'Isère.
Très bien, merci Cathy. Je te propose de présenter un petit peu plus tard la plateforme Mieux traverser le deuil, parce qu'on présentera aussi d'autres plateformes en direction des jeunes. Et puis, on va donner la parole à Jérôme, parce que je sais qu'il doit nous quitter vers 14h.
Exactement. Adaptation et poursuite de la scolarité chez les élèves orphelins, c'est l'étude. Les recherches que vous avez menées, Jérôme, consistent à étudier les conséquences pour les élèves de l'orphelinage sur les apprentissages scolaires pour aider les enseignants à leur fournir une pédagogie adaptée. En effet, 72% des enseignants ont eu un ou plusieurs orphelins dans leur classe au cours de leur carrière et que 63% d'entre eux estiment que le sujet de la mort devrait être abordé à l'école. Les deux tiers estiment ne pas avoir la formation adéquate, manquer d'informations et d'outils pour aborder sereinement ces situations complexes. Quelles sont les conclusions de cette étude, Jérôme, les préconisations faites aux enseignants ainsi que les outils qui leur sont proposés?
Oui, alors je commencerai d'abord par remercier Claudine et Camille pour leur témoignage parce que c'est assez facile de venir parler de son boulot quand on vient en tant que professionnel. C'est nettement plus complexe et délicat de venir parler de son vécu personnel. Merci, c'est même très touchant ce que vous, la démarche que vous avez aujourd'hui. Alors concernant les conséquences qu'on peut envisager sur la scolarité des enfants après le décès d'un parent ou des deux parents, on n'a pas beaucoup de recherches qui traitent ces questions-là. Il y a des recherches à l'international, mais je parle de recherche en psychologie parce que c'est ma discipline, donc je ne parle pas de ce que je ne connais pas. En tout cas, pour ce qui est de la psycho, on a des recherches à l'international, on en a un petit peu en France, mais il y en a beaucoup. Un sujet, il faut bien l'admettre, qui n'est pas très sexy, pas très vendeur. Il n'y a pas grand monde qui a envie d'entendre parler de l'amour, surtout quand c'est lié à l'enfance. Ce qu'on a fait avec une équipe de psychologues scolaires lors d'un programme de recherche qui d'ailleurs avait bénéficié d'un financement de la Fondation OSIRP, c'est qu'on a rencontré des enfants orphelins, on a rencontré aussi des enfants du même âge, même composition de la fratrie, même niveau de classe, mais qui, eux, avaient encore leurs deux parents, et on leur a fait passer un certain nombre de tests, d'épreuves, comme on dit dans le jargon. On s'est aperçu que sur des épreuves qu'on appelle de mémoire de travail, donc bon, vous connaissez probablement la différence entre mémoire à court terme et mémoire à long terme, et la mémoire à court terme, c'est une mémoire à quelques secondes, voire quelques minutes, et la mémoire de travail, c'est une mémoire à court terme avec une forte composante de concentration, c'est-à-dire une mémoire qui nous est nécessaire quand on écoute quelqu'un qui est en train de parler, comme c'est votre cas en ce moment, quand on écoute le journal télé, un discours, quand on veut mémoriser une consigne, quand on veut se souvenir au bout de cinq lignes de ce qu'on a commencé à lire cinq lignes auparavant, etc., etc., suivre un itinéraire, se répéter une liste, etc. La mémoire de travail est vraiment requise dans de très nombreux moments de la vie, et en particulier de la vie scolaire pour un élève, et que ce soit un élève de 3-4 ans à la maternelle qui doit apprendre à suivre des consignes simples, ou que ce soit un élève en terminale qui doit apprendre des choses beaucoup plus complexes. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que sur ces deux types de mémoire, mémoire à court terme et mémoire de travail, les enfants qu'on a rencontrés étaient moins performants que les enfants témoins, c'est-à-dire qu'ils avaient encore leurs parents, alors que sur d'autres épreuves de type mémoire à long terme, alors avec des choses, ce qu'on appelle des éléments surappris, alors les jours de la semaine, les mois de l'année, compter jusqu'à 30, des choses comme ça, on n'a pas vu de différence. Donc en fait, il semble que sur des choses assez automatisées, ça n'ait pas beaucoup d'impact. Par contre, sur des choses avec, donc dans des apprentissages qui nécessitent une forme de contrôle sur soi, hein, c'est-à-dire être présent, rester concentré, faire attention, repousser des idées parfois un peu envahissantes qui voudraient s'imposer à nous, mais qui ne doivent surtout pas s'imposer à nous si on veut pouvoir continuer à réfléchir et travailler. Et bien là-dessus, les enfants orphelins qu'on a rencontrés étaient vraiment statistiquement, significativement en dessous des autres en termes de performance. Alors ça fait écho à quelques études, il y en a une qui avait été menée en 2015 aux États-Unis où les auteurs avaient montré que chez des ados, les capacités d'attention étaient moins bonnes chez des ados orphelins que chez des adolescents tout venant. Bon, il y a aussi des éléments cliniques. Il y a Guy Cordier, qui est un pédopsychiatre lillois, qui avait remarqué ça dans sa pratique, hein, avec des enfants, pas que orphelins, mais des enfants endeuillés d'un proche. Il avait remarqué que ce sont des enfants qui ont beaucoup de difficultés à apprendre leurs leçons. Donc, ça, c'est une première piste. Alors, comme je le disais il y a quelques instants, il n'y a quand même pas beaucoup de recherches qui sont faites. Donc, c'est difficile d'établir des programmes comme ça valables pour toute une nation sur quelques résultats de recherche. Il est nécessaire que ces résultats-là soient répliqués, si on arrive à les répliquer, c'est-à-dire si en rencontrant de nouveau des orphelins, on s'aperçoit que encore une fois, on a des résultats sur certaines épreuves cognitives qui sont moins bons, alors il faudra effectivement commencer à se dire, ben, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire globalement? Mmh. Alors, quelque chose à faire globalement, la Fondation OSIRP, alors je parle d'eux, bon, moi, j'ai pas d'action dans la Fondation OSIRP, je suis un chercheur, tout va bien, voilà, je suis fonctionnaire, j'ai mon salaire, tout ça, mais ce qu'il faut leur reconnaître, hein, c'est que ce sont les premiers, il y a une dizaine d'années, hein, l'OSIRP, donc c'est cette, cette réunion de sociétés de prévoyance et ils ont créé une fondation d'entreprise. Et c'est la première fois qu'en France, une fondation a dit « Nous, ce qui nous intéresse, c'est les orphelins et rien d'autre ». Alors, entre-temps, depuis, ils se sont un peu élargis, mais pendant une dizaine d'années, ils ont vraiment été tête de pont. Ils ont structuré, en quelque sorte, les actions, le financement de recherche, le financement de formation sur les questions de l'orphelinage. Donc, ils ont sorti l'an dernier un guide qui s'appelle « Être orphelin à l'école ». Alors, je vais vous montrer là à l'écran, mais bon, les auditeurs, si vous voulez, vous pouvez aller sur le site de l'OCIRP. Alors, ce guide…
On est en fond vert.
Non, pas à l'écran.
Il n'apparaît pas.
Vous ne le verrez pas, vous allez voir sur le site de l'OCIRP. Ça s'appelle « Être orphelin à l'école, mieux comprendre pour mieux accompagner ». Donc voilà, on a été quelques-uns à participer à ce guide. C'est un petit guide format A4 en 7-8 pages, dans lequel on a essayé de à la fois rappeler des éléments sur la manière dont le deuil souvent se déroule chez des enfants et des adolescents, et puis donner des indications sur les conséquences du deuil quand il s'agit d'un enfant qui perd un de ses parents, c'est très particulier quand même, hein, parce qu'effectivement, je crois que c'est Martin qui le disait tout à l'heure, perdre un parent, c'est perdre une de ses racines. Alors, tu ne l'as peut-être pas dit comme ça, Martin, mais moi, c'est comme ça que je le dis. C'est pas la même chose que perdre son parent quand on est adulte. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas triste et que ce n'est pas douloureux, bien sûr. Mais quand on est un enfant, les parents nous permettent de grandir et nous guident, nous éduquent, nous apprennent des tas de choses. Et quand on en perd un des deux, en tout cas, dans nos sociétés occidentales où on est essentiellement élevé par un couple parental, quand on en perd un des deux, c'est toute une partie de ce que l'on devrait ou pourrait recevoir quand on ne reçoit plus. Donc, c'est vraiment très, très spécifique. Et voilà. Et puis, donc, dans ce guide, pardon, on ne donne pas vraiment des conseils ou des préconisations pour les enseignants parce que c'est difficile d'appliquer des choses comme ça, de prétendre donner des recettes qui marchera à tous les coups. Évidemment, on en est loin. En revanche, peut-être que ça vaut le coup pour des enseignants qui, effectivement, pour la plupart, voudraient avoir plus d'informations, voudraient avoir plus de formation aussi et voudraient pouvoir avoir en quelque sorte des procédures quand ils s'aperçoivent qu'il y a un de leurs élèves qui est orphelin. Bien, ce qu'on peut peut-être leur apporter des éléments du type, eh bien voilà, en mémoire de travail, en attention, inhibition, donc toutes ces grandes fonctions cognitives, les enfants orphelins semblent être un peu en dessous. Alors donc, on peut peut-être adapter en allégeant un peu ce qu'on leur demande de faire ou d'apprendre, ou en répartissant ça sur plusieurs séances. Et puis, il y a cette question de la disponibilité des adultes qui est très compliquée parce qu'effectivement, il faut être là. Il faut pouvoir dire aux enfants, si tu as besoin qu'on en parle, on en parle. Il n'y a pas de problème, je peux dégager un peu de temps. En même temps, il ne faut pas être intrusif. En même temps, on ne voit pas trop à quoi ça servirait de les obliger à le faire. Donc, c'est très délicat. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça reste très tabou. Donc, voilà. Merci pour votre émission parce que ça participe à lever ce tabou. Et je pense que la mort, il faut en parler. Alors voilà, tout à l'heure, vous citiez les apéros de la mort. C'est sûr que quand on va déconfiner, on va se prendre les apéros de la mort, c'est sûr. Et la mort en tant que telle, il faut qu'on en parle, bien sûr.
Donc rendez-vous le 19 juin sur Calderas, Jérôme, pour l'apéro de la mort. Tu nous donneras l'adresse.
Je sais pas, j'ai vu un truc sous les œufs, là, à Grenoble, il y a des cafés sympas.
En tout cas, pour compléter le guide que tu proposes aux enseignants, il y a deux plateformes qui ont été développées pour proposer des supports de réflexion et d'accompagnement aux pros et aux adultes qui sont susceptibles de rencontrer et d'accompagner des enfants ou des jeunes orphelins. Il y a donc la plateforme École Orphelin qui est pilotée par l'OCIRP avec le leitmotiv « Ne laissons pas les enfants faire le deuil de leur réussite » où il y a plein d'infos. Et également « La vie, la mort, on en parle » dont Martin, tu as participé au développement qui est porté par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et qui recense, elle, des ressources et des acteurs variés sur l'ensemble de la France pour parler de la fin de vie, de la mort et du deuil. Carole, est-ce que tu peux faire un petit point sur la plateforme Mieux traverser le deuil rapidement et puis ensuite on passera à la dernière partie parce que l'heure tourne.
Ok, pas de problème. Donc, Mieux traverser le deuil, c'est un site moi, que j'utilise beaucoup et dont je parle aussi souvent aux familles qui, lorsqu'elles souhaitent avoir un peu des éléments de repères ou de compréhension sur ce qu'elles vivent et ou ce que les enfants vivent, voilà, sur le processus de deuil. Donc, il y a... c'est un signe qui est vraiment très bien renseigné, donc qui aborde beaucoup de sujets. Alors voilà, sur les étapes du deuil, les émotions, sur des sujets aussi plus intimes, On a parlé un petit peu des rites aussi, voilà, des objets. Il ne s'agit pas d'apporter des réponses, mais bon, peut-être des éléments de compréhension et puis de pouvoir aussi se mettre des mots aussi sur des choses qui sont vécues et de rassurer aussi, se rassurer sur ce qui est un peu voilà, normal aussi à vivre ou pas. C'est aussi une plateforme d'écoute, mais c'est surtout un site qui est dédié en priorité aux familles et à leur entourage aussi. Donc, il y a quand même toute une partie qui s'adresse à l'entourage aussi, de comprendre un petit peu comment il peut se positionner, aider. C'est parfois un peu compliqué aussi de savoir comment faire. Voilà. Et puisque vous avez fait référence, c'est quand même un site qui est beaucoup inspiré des travaux de Christophe Fauré. Voilà. Donc, que je trouve très accessible, voilà, pour les familles. Et on peut trouver dessus toutes sortes de supports, c'est-à-dire bah, des articles évidemment, mais aussi de nombreux témoignages, voilà, des vidéos et puis des choses plus concrètes sur les funérailles, les ados démarches, enfin. Voilà, il existe d'autres sites aussi, certainement, voilà, qui traitent aussi de ce sujet. Mais je voilà, donc je parlerai pas, je les connais moins.
D'accord, merci Carole.
Jérôme fait signe, tu t'en vas, c'est ça Jérôme, tu dois partir je crois. Tu nous faisais un petit coucou.
Oui.
Très bien.
Je suis désolé, je serais bien resté avec vous, c'est pas du tout...
Pas de souci. C'est normal.
J'ai un séminaire de recherche, je vais parler des orphelins, donc ouais, je suis sur le pont.
En plein dedans, ça marche. Merci beaucoup
merci
encore.
Sur le pont de San Francisco, comme ton fond d'écran. Ciao Jérôme, à bientôt.
Ah, là, bah, c'est l'apéro de la mort sur le Golden Gate Bridge.
Salut, salut.
Bye. Eh ben on va passer à la troisième partie de cette émission qui est consacrée à comment on intègre l'absence, comment finalement le deuil et le disparu vient faire partie intégrante de notre identité. J'avais relevé aussi dans un des articles que tu as écrit, Martin, qu'il y a des personnes qui disent que c'est pas une chance, mais ça peut devenir une force. Donc du coup, Claudine, comment vous ça s'intègre dans votre histoire à présent?
Alors moi, je parle d'un absent qui est tellement présent, finalement, parce que, bon, bien sûr qu'il est toujours à l'esprit, et en plus, il est d'autant plus à l'esprit quand, ces dernières années, quand les enfants ont réussi des choses dans leur vie, par exemple, quand ils ont réussi leur bac, ou quand ils ont réussi leur permis, ou quand ils ont réussi leur diplôme d'études supérieures, bah, il manque toujours quelqu'un pour être complètement à la fête dans ces réussites-là. Et ça, c'est un peu compliqué. Moi, au fil du temps, je tente de mettre à distance certaines choses, certains objets. Ça a été difficile de trier les vêtements, par exemple. C'est difficile de se séparer de certains objets. C'est difficile de mettre à distance. Mais je l'ai intégré comme s'il était à l'intérieur de moi. C'est une partie très intime de mon histoire. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était au coin de mon épaule et qui m'accompagne tout le temps. Je ressens aussi un devoir de mémoire parce que mes enfants, comme ils étaient jeunes au moment où il est décédé, c'est comme si j'avais des choses à leur raconter, une histoire à leur raconter, puisque lui n'est plus là pour la raconter. Alors c'est un peu compliqué pour moi qui ai fait un burn-out, parce que ma mémoire, justement, elle me fait défaut. Et parfois, j'ai peur d'oublier des morceaux de cette histoire. Alors heureusement, il a écrit un livre avant de mourir, livre qu'on n'a pas vraiment lu, parce que pour l'instant, c'est encore trop douloureux, mais où je pense qu'il a raconté beaucoup de choses. Et puis, moi, j'ai eu dans cette histoire le sentiment de perdre la moitié de moi-même. Hein. C'est comme si, c'est comme si une partie, la moitié de moi-même s'était effacée. Donc, je reconstruis petit à petit cette moitié de moi-même en connectant notamment des choses ou des gens ou des goûts que j'avais d'avant notre rencontre. Et à l'heure actuelle, aujourd'hui, j'ai besoin d'être vue différemment de la femme veuve. Et de plus être identifiée à ça, et puis de reconnecter une joie intérieure, puisque le temps passe et que la vie continue, et qu'il faut être présent pour son entourage, que les enfants sont là et qu'on continue. Je recherche une forme de sérénité, j'essaye de mener des projets perso et pro. Il y a encore du boulot, mais il y a toute cette mémoire avec lui qui est là et qui est ultra précieuse. Et c'est vrai que c'est une force d'avoir traversé tout ça. On l'a traversé ensemble avec mes enfants. Ça nous donne une complicité extraordinaire. Ça nous donne beaucoup d'amour. avec eux, avec mon entourage. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui nous a donné, finalement, en mourant. C'est cette capacité à s'aimer les uns les autres et à être dans la bienveillance les uns des autres. Ouais. Je dirais que ce qu'il en ressort, c'est l'amour, finalement.
Merci Claudine.
Merci Claudine, merci beaucoup.
Camille, de ton côté ? Ah, on ne t'entend plus.
Le micro est coupé.
Oui. Voilà, c'est bon. Me revoilà.
Merci.
Je pense que comme l'a mentionné Martin au début, puis Jérôme, cette idée de perdre un parent et ici ma mère, et que c'était quelqu'un de très proche, et du coup c'était vraiment comme perdre une racine et perdre quelque chose qui me manquerait. Et c'est vrai que finalement j'ai l'impression d'avoir été un peu propulsée dans l'espace et maintenant de vivre vraiment cette vie un peu comme un électron libre, justement en ayant beaucoup vécu à l'étranger, en étant très flexible, en vivant en Asie, en vivant maintenant à Londres. Et je pense que finalement, le fait de perdre cette racine et d'être déracinée assez jeune, ça m'a permis finalement de me donner énormément de liberté. Alors une liberté qui peut être des fois un petit peu impressionnante, mais une liberté qui m'a donné cette envie d'aller voir ailleurs et de juste mener ma vie comme j'en ai envie, peut-être sans suivre peut-être les attentes de la société, les attentes de la famille, etc. Et d'être vraiment en fait libre et d'être vraiment cet électron libre. Et je pense que mon attachement à maman m'aurait limité en fait un peu dans cette liberté, puisque j'aurais forcément ressenti une sorte de loyauté envers elle. On était très proches, donc je pense qu'elle m'en aurait voulu de vivre si loin. Donc je pense que finalement, en partant, il y a quelque part, elle m'a un peu autorisée à être complètement moi-même et à vivre cette vie complètement libérée en fait d'une forme d'attachement, et à vivre cette vie un peu singulière, un peu d'avoir un peu cette niaque et cette force. Et après, comme on l'a dit très bien Claudine, ce qu'il en ressort, c'est quand même énormément d'amour, et notamment avec toi Flo, ma grande sœur. Je pense que j'aurais jamais eu cette relation aussi intense et forte avec toi, et merci pour être avec moi au quotidien. Et aussi, j'ai loué des liens très forts avec mes tantes, et donc il y a toute cette unité de femmes autour de moi, et maman reste très présente juste dans nos cœurs. Je pense que c'est Cocteau qui le disait très bien, le cœur des vivants est le tombeau des morts. Donc c'est un peu l'idée que finalement il reste énormément d'amour dans cette souffrance.
Waouh, bon, c'est le moment où moi je vais sortir
comme ça. Un mouchoir, Florence.
Non, ça va pas. Martin, est-ce qu'on peut te laisser conclure, s'il te plaît, sur un peu tout ce qui s'est dit, notamment sur le parcours des orphelins devenus adultes, et un peu tout ce qui s'est dit avant qu'on finisse l'émission, s'il te plaît.
Waouh. ces déclarations-là, je crois que... elles suffisent quand même bien. Je crois que du coup, ce que m'évoquaient un peu les témoignages, c'était aussi que du coup, malgré toute la difficulté, la tristesse et le chaos que ça provoque, en fait, il y a de la remise en ordre, en fait. Il y a du rééquilibrage, et qu'il y a des choses qui sont belles après aussi, et dont qu'on réalise plusieurs années après, etc., ou pas, hein, mais que ça peut arriver dans le vécu et dans l'expérience des personnes endeuillées, qu'effectivement, ce qu'on retrouve chez les jeunes adultes qui perdent un parent, et là, c'était le cas aussi de Camille, effectivement, que la perte d'un parent, en fait, permet d'autres choses que ce qu'on avait imaginé en étant adolescent ou jeune adulte, de ce qu'on pourrait devenir, en fait. Et que l'idée n'est pas de comparer, mais de plutôt dire, tiens, ça a aussi créé ça, et ça n'enlève absolument pas la douleur et le fait que, évidemment, à choisir, j'aurais choisi que maman reste ou papa reste, évidemment, mais que cet événement-là est fondateur et que je parviens, finalement, bon an, mal an, à en faire quelque chose. Et que c'est très compliqué, que pas tout le monde y arrive, en fait. Ça aussi, c'est, sans être dans une note plus pessimiste, mais aussi de dire que, en fait... dans le vécu des personnes, c'est pas aussi ça peut être très compliqué, ça peut durer longtemps, voire on peut aussi avoir des témoignages de personnes qui, au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, en fait, l'expriment comme ça en disant je n'y arrive pas, en fait, j'arrive pas à ressentir quelque chose, de parvenir à en faire quelque chose de, aussi de fondateur et de, d'une certaine manière, paradoxalement, positif pour moi et pour les autres. Et que ça, malheureusement, effectivement, ça fait aussi partie de la réalité du deuil des orphelins et des conjoints. On n'en a pas trop parlé, mais pour les enfants, tout de même, ce qui peut être compliqué, c'est que le parent survivant, il est à la peine très souvent. Et qu'en fait, c'est pas tant finalement pour les enfants orphelins le décès du parent en tant que tel, que les conséquences sur la vie familiale, le changement de lycée, le changement de collège, la baisse de financière aussi, où on a peut-être un peu moins de moyens, on a un parent qui est moins présent, parce que du coup, il doit gérer plein de choses et aussi son propre deuil. Et que du coup, il y a aussi plein de choses pour les enfants orphelins à gérer des conséquences du deuil. Pas forcément, je suis terrassé et je suis bouleversé parce que maman ou papa n'est plus là. Mais du coup, il y a plein de conséquences après dans la vie d'un enfant, toute simple, l'école, les amis, l'argent de poche, le sport, etc., qui sont, ça, c'est des éléments qui vont se cumuler, en fait, comme des conséquences et qui peuvent justement être particulièrement difficiles et sur lesquelles, là, c'était pour ça que je l'amenais, les autres peuvent agir. Et du coup, de suggérer, de proposer des initiatives, de proposer aux parents conjoints de prendre les enfants, de l'amener en vacances, en week-end, de l'amener au sport, de proposer régulièrement et de manière régulière et sans penser, quand on est en face, que la personne n'apprécie pas, même si elle ne répond pas, même si elle n'est pas en capacité de dire oui, je veux, oui, je ne veux pas, ou je ne sais pas, ou je sais, mais que de reproduire régulièrement, quand on est proche de ces personnes-là, de reproduire et de redire qu'on est présent et qu'on peut faire des choses. Et quand je dis ça, c'est pas forcément que la première année. Ça, c'est quelque chose qui se répète régulièrement, parce que cet événement-là va rejaillir dans les moments de séparation, dans les moments de naissance, dans les moments de déplacement, de réussite professionnelle, de rupture amoureuse ou de grandes rencontres amoureuses, etc. Et que finalement, cet événement-là se poursuit. Et en fait, on en fait à chaque fois quelque chose. Et qu'à chaque fois, il y a des événements importants pour nous qui nous renvoient à cette perte-là fondamentale, en fait.
Tu parlais de la concordance des âges aussi, quand on arrive soi-même à l'âge où notre parent est décédé, qui peut être compliqué quand on devient parent, bien entendu. On va devoir conclure.
Complètement.
Alors, ouais. Merci à Camille, mais oui, merci à... Excuse-moi, Martin, vas-y.
Pas de souci. Là, je repensais simplement, qu'on redevient parent ou que, par exemple, on a un grand projet de rentrer dans une maison et on achète une maison et tout d'un coup, il y a des choses qui sont très importantes pour nous et tout d'un coup, on se fait dépasser à nouveau comme on l'était X temps avant, 30 ans avant, et que ça, c'est très perturbant, et que c'est finalement tout à fait, avec les très gros guillemets, normal dans un processus de deuil et dans une perte aussi fondamentale que l'est la perte d'un parent ou d'un conjoint.
Très bien, donc merci à
merci
Camille,
beaucoup.
Merci à Claudine, on a vu
merci.
Que vous vous êtes enracinée dans cette histoire et en même temps que vous l'avez sublimée. Claudine, toi, ton conseil, en tout cas, ce qui t'a permis un petit peu d'avancer, c'est de te rapprocher de personnes qui avaient vécu une expérience similaire. Camille, c'était s'éloigner de ton entourage. Moi, je propose d'oser créer ses propres rituels. Et on l'a entendu, il n'y a pas de prêt-à-porter concernant le deuil, il n'y a que du sur-mesure. Et autant de façons de le vivre qu'il y a d'individus. Ça reste néanmoins une empreinte à vie qui colore durablement notre rapport au monde. L'idée, ce serait plutôt d'apprivoiser l'absence, de reconnaître une présence autrement, plus qu'au final de faire son deuil, on fait avec. C'est lui qui nous défait et qui nous refait.
Totalement d'accord, Flo. la cave de l'Isère, dans le cadre de la quinzaine de la parentalité, elle propose le film « Et je choisis de vivre » en visio, suivi d'une rencontre avec des associations de soutien au deuil périnatal le 10 juin, entre 18h et 20h. Cette soirée sera animée par Carole et Cathy.
On vous mettra toutes les consignes via notre Facebook et sur notre site. On vous retrouve le 9 juin pour une émission best-of. On va faire une rétrospective des meilleurs moments du direct. Et en attendant, vous pouvez retrouver notre actualité sur Facebook, sur Parents Live. Guettez la sortie du podcast d'ici une dizaine de jours. D'ailleurs, le podcast du mois dernier est en ligne depuis ce matin. Et puis, bien entendu, retrouvez l'Expo des Pères. Précipitez-vous à la boulangerie Ange à Saint-Égrève jusqu'au 30 mai pour la découvrir. Et puis, à partir du 1er juin, elle sera à la Cité des Familles de Grenoble. Je vous rappelle que vous pouvez solliciter une interview ou vous enregistrer depuis le module en ligne pour partager votre expérience de la paternité, qui, on le rappelle, est le fil rouge de Parents Live pour au moins cette année, si ce n'est pas plus. À très bientôt. Merci Martin, merci Carole, merci Cathy, merci Camille.
Merci
Claudine.
Merci à vous tous.
Merci beaucoup. Rendez-vous le 9 juin.
Merci.
Bye.
Salut, salut.
Au revoir. 12 FM. 12 FM.